Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Le conflit Russie-Ukraine, avec Guillaume Lavoie.
Salut Guillaume.
Bonjour Patrick.
Écoute, avant de rentrer dans le vif du sujet, je sais pas si tu as vu, là, y a les bombardements qui se produisent toujours autour de la centrale de Zaporijia et qui est une centrale nucléaire, donc c'est quelque chose qui est quand même assez important. Et là, on voit que les Russes et les Ukrainiens s'accusent mutuellement d'être les auteurs des bombardements. J'ai envie d'avoir la réponse facile, de dire on sait c'est qui, mais tu sais comment on démêle ça?
Ben, d'abord, il faut savoir que normalement, même dans un conflit armé, il y a des règles internationales qui considèrent qu'une centrale nucléaire, parce que l'accident est tellement potentiellement grave à l'échelle planétaire, c'est un endroit où tu ne peux pas engager des combats selon toutes les circonstances. Tu as même l'obligation morale de t'assurer qu'elle continue à fonctionner parce qu'on ne peut pas l'abandonner même si on la mettait à l'arrêt. Ce que les Russes ont fait, ce qui est absolument tordu, c'est d'aller installer leurs installations militaires dans l'enceinte, sur le terrain de l'usine. Vous imaginez? En disant, mais moi, je peux clairement lancer des attaques de là, mais n'allez pas me bombarder parce que là, vous seriez en train de vous attaquer aux alentours ou au pourtour d'une centrale nucléaire. Alors, c'est tordu à puissance 10 et c'est pas particulièrement judicieux de la part des Russes parce que les vents dominants sur la planète sont encore de l'ouest vers l'est. S'il y avait un accident nucléaire important, bien sûr que ce serait très grave au niveau mondial, mais les premiers à en souffrir, à part les Ukrainiens, seraient les Russes qui sont installés à l'Est. Alors ici, les Russes jouent un jeu extraordinairement dangereux. Et puis là, ben, à qui la faute au début, à la fin? C'est certain que si les Russes n'étaient pas en Ukraine, on n'aurait pas ces problèmes.
Ouais, écoute, mais tu sais, j'ai même vu, il y a une déclaration du G7 là, qui est sortie pour dire là, qui accusait Moscou finalement de mettre en danger la région. Là, je sais pas quoi en penser. Tu sais, on connaît la tactique des boucliers humains qui est utilisée parfois là, par des groupes terroristes là, qui vont justement là, garder des enfants pas loin, garder des civils pas loin. Mais là, c'est un bouclier nucléaire. C'est nouveau.
Et s'il y en a qui veulent voir quel pourrait être le potentiel d'un accident, d'une centrale où il y aura un accident nucléaire là, qui sort de toute proportion, allez voir la magnifique série de Tchernobyl. Et au départ, on pensait que à peu près tout l'Ukraine, tout le Bélarus, une grande partie de la Russie, deviendrait presque infréquentable pendant une ou deux générations. Alors, le danger est tellement grand que ça dépasse les frontières du conflit Russie-Ukraine ou de l'Est de l'Ukraine, c'est un danger qui pourrait avoir des conséquences sur des dizaines de millions de personnes et les retombées nucléaires font pas de distinction sur la couleur des uniformes. Là-dessus, ouais. Vladimir Poutine devrait se dire ça.
Mais est-ce que ça montre pas justement peut-être qu'il y a un certain désespoir ou un certain désarroi du côté des dirigeants russes? Parce que quand on est rendu à prendre ce genre de tactique-là qui peuvent nous péter en pleine face, c'est que ça va pas nécessairement super bien.
Faut jamais oublier l'hubris ou des fois l'idée qu'on n'analyse pas tout en particulièrement finement. Et ce qu'on connaît mal, c'est quel est le niveau de direction et d'information entre le Kremlin et ce qui se passe sur la ligne de front. Là, c'est pas pour dire que Vladimir Poutine n'a rien à voir là-dedans, mais c'est peut-être pas certain qu'on a une appréciation en temps réel des dangers ou des actions qui se passent sur le terrain au Kremlin. Alors peut-être que le rappel du G7 ici va énerver un peu tout le monde avec raison.
OK, peut-être autrement dit, c'est des gens sur le terrain, des commandants locaux qui sont pensés à de fonctionner comme ça sans nécessairement avoir eu l'aval. OK, on a parlé beaucoup du fait que l'Ukraine était une espèce de garde-manger pour une grande partie du monde. C'est aussi un site de ressources minières très important.
Oui, et là, sans faux jeu de mots, regardons les dessous du conflit ukrainien. Vous savez, il y a à peu près, on dit, 120 miniers dont l'économie moderne a besoin sur une base régulière. les 117 qui se trouvent dans l'aide de l'Ukraine, c'est pas rien. De dollars. Et il y a 1000 milliards dans un trillion. Alors, c'est gigantesque, du fer, du charbon, du titanium, mais aussi ce qu'on appelle les terres rares, là, par exemple le lithium, ce que vous avez besoin aujourd'hui pour faire un téléphone cellulaire ou encore des batteries électriques. Alors, bref, un endroit qui devient stratégique, pas juste pour l'économie de l'Ukraine, mais pour le monde entier. Et là, mais comme c'est dans l'Est, il y a une grande partie de ça qui est sous contrôle russe. Par exemple, 2/3 des dépôts de charbon, 10% du pétrole, 20% du gaz naturel, presque la moitié des métaux. Alors, c'est assez gigantesque et l'impact que ça a sur l'Ukraine à très court terme est de deux ordres. D'abord, il y a un genre de marasme économique, là. Vous coupez littéralement de l'économie du pays. Tout le secteur, imaginez les emplois, les redevances, parce qu'on ne fait pas juste exporter du grain, on exporte aussi des produits miniers. Et les investissements directs étrangers, nommez-moi quelqu'un qui voudrait investir en Ukraine présentement. Parce que vous savez pas demain matin qui va contrôler la mine, ou va contrôler les autres. Et c'est aussi la capacité de fonctionner du pays. Imaginez l'Ukraine, qui est un méga producteur de charbon, présentement est obligée d'importer du charbon pour faire fonctionner les peu d'usines qui restent ou chauffer les maisons. Alors, voyez que l'objectif ici de Vladimir Poutine est pas juste pour avoir des ressources qu'il ne pourrait pas avoir autrement. Il n'y a pas un pays qui est plus béni de ressources que la Russie, sauf peut-être le Congo. Alors là, on se dit, ce qu'il souhaite faire, c'est d'empêcher l'Ukraine de pouvoir fonctionner. Et ceux qui souhaitent, par exemple, qu'on gèle le conflit, c'est-à-dire on prend une photo où on est, que tout le monde pose ses armes, puis à tout le moins on attend. C'est vrai que d'arrêter les bombardements serait positif, mais est-ce que l'Ukraine peut fonctionner sans ses ressources économiques de base qui se trouvent dans l'Est? Je vais essayer de vous faire un parallèle québécois. Imaginez qu'on était envahi par le Nord et tout le secteur de la baie d'Ungava, de la baie James et de la côte Nord était occupé par un ennemi. Ben, bonne chance pour avoir de l'électricité à Montréal. Alors, vous voyez un peu là, ce qui est vraiment le cadre ici pour l'économie et le pays qu'est l'Ukraine. Et le plan de Vladimir Poutine, c'est de faire tomber les trois piliers du pays. L'agriculture, les mines et les ports, qui sont la horte économique qui permet de faire entrer, mais surtout de sortir ce que ce pays-là a à vendre et exporte à grands frais. Alors, c'est un peu le plan de Vladimir Poutine par la bande. C'est si je joue le long terme et que je joue le sablier, il y a une chose que vous oubliez, c'est que l'Ukraine, elle, se paye avec les ressources qu'elle exporte. Si demain matin, on enlevait la capacité de Hydro-Québec de fonctionner, bien, ça aurait comme conséquence de couper le gouvernement du Québec de plus de 2 milliards d'entrées dans son budget. C'est pas rien, ça. Alors, voilà un peu qui est le plan russe. Et la grande ironie, c'est que les mines de l'Est, sous contrôle russe, soit fonctionnent quand même ou de manière obligée, un peu comme des mines en Afrique. Alors, les quelques mines qui sont sous le contrôle encore de l'armée ukrainienne, c'est considéré presque comme du patriotisme avancé d'aller travailler dans les mines pour sortir les ressources, pour faire fonctionner ce qui reste du pays.
C'est fou, Red. On dirait vraiment que le plan de match, c'est l'anéantissement complet du pays, puis il va rester le territoire, puis rien d'autre. Hey, avant de sortir rapidement, c'est tombé aujourd'hui, Donald Trump qui devait aller devant la procureure générale à New York et qui refuse de répondre aux questions, quand même.
Oui, alors il a le droit constitutionnel de pas répondre aux questions. C'est le 5e amendement. La grande ironie, c'est que Trump a toujours dit de ceux qui faisaient ça, qu'ils étaient des poltrons. Puis si tu n'as rien à te reprocher, pourquoi est-ce que tu prends ton droit de ne pas répondre? Le fait qu'il le fasse maintenant, c'est un pari risqué, mais qu'il a réussi à emballer magnifiquement ou malicieusement dans l'idée qu'à la fin, c'est seulement parce que tout le système de justice au complet est une grande aventure partisane et vengeresse contre lui. Alors on le met encore dans un rôle de victime, rôle pour lequel il a été plusieurs fois oscarisé. Alors, on a un Trump ici qui joue au mieux le jeu qui est le sien. On verra si la justice, à la fin, aura le dernier mot. C'est pas certain.
Ouais, non, puis en tout cas, c'est quand même intéressant parce qu'on parle de quelqu'un là, qui tweetait de façon compulsive à toute heure du jour ou de la nuit puis qui gênait pas pour donner son opinion. De voir invoquer le silence, c'est quand même assez particulier. Guillaume Lavoie, membre associé à la chaire Raoul Dandurand, on se reparle demain.
Au plaisir.
Au revoir.